Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers des partages d'expériences. Donc je donne la parole à des réalisateurs, des photographes, des écrivains, des voyageurs, ce qui est ton cas avec nous, Marie Grunewald, dans cette émission. Donc l'idée, c'est vraiment prendre le temps de te rencontrer. Donc on va revenir peut-être à Marie plus jeune. À quel moment tu as eu envie de quitter Yutz, la ville où tu as grandi, parce que là on se retrouve dans ta maison d'enfance à Yutz. À quel moment tu t'es dit, tiens, peut-être qu'il y a autre chose en dehors de Yutz?
Oui, alors c'est marrant parce qu'en fait, à la base, j'étais pas trop lancée vers les voyages, j'étais plutôt... J'avais tendance à rester dans ma zone de confort, j'étais très bien dans ma petite ville ici, avec ma famille, tout ça. Et puis en fait, c'est seulement quand j'avais autour de 20 ans, où en fait j'ai eu l'opportunité d'aller étudier à l'étranger. Et je me suis dit, bah ok, pourquoi pas, donc les programmes Erasmus qu'on connaît. Sauf que j'avais envie d'aller plus loin, donc du coup je me suis dit, pourquoi pas partir aux États-Unis. Donc du coup j'ai fait ma demande pour partir aux États-Unis, ça a été accepté. Donc en fait j'ai passé d'abord la première partie de l'année à Londres, et ensuite je suis partie aux États-Unis. Et en fait, je pense que ça a déclenché une envie de voyager encore plus, une passion que j'avais, dont j'étais même pas au courant. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça, une année d'études à l'étranger. Et après, je suis rentrée en France et je me suis dit, c'est impossible que je reste ici. Il faut que je reparte. Et du coup, je suis repartie à Londres et je suis restée 5 ans au final. J'ai travaillé sur place et puis une fois que j'avais trouvé mon travail et tout, j'ai fait ma petite vie sur place. Et c'est comme ça que ça a commencé, le tout début de mes voyages.
Donc là, c'était dans le cadre des études. Ensuite, tu pars à Londres pour pouvoir trouver un travail et rester dans la durée. Est-ce que tu savais que tu allais rester 5 ans à Londres ou comment ça s'est passé?
Ah non, au début, je m'étais dit, bah, j'y retourne parce que j'ai envie d'être à l'étranger, mais... Tous les ans, j'avais une autre envie de voyage. Je me disais, ah, peut-être que cette fois-ci, je vais partir en Espagne. Et peut-être que cette fois-ci, je vais partir... À un moment, je voulais partir à Dubaï. Enfin bref, j'avais plein d'idées de voyage. Au final, à chaque fois, je revenais à Londres. C'était un peu la facilité aussi, parce que voilà, je commençais à avoir ma petite vie, mes amis, mon travail. Et puis au final, après, je me suis créé une vie que j'aimais bien à Londres. Et j'y suis restée pendant 5 ans.
Et pourquoi tu as quitté cette vie à Londres que tu aimais bien?
J'ai fait un burn-out. C'était un petit peu trop de... Londres, c'est une ville qui est incroyable, mais c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Et au niveau du travail, je travaillais énormément. Et à un moment où voilà, c'était trop, tout simplement. Donc du jour au lendemain, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon partenaire de l'époque, j'ai quitté mon logement. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant?
Ok, tu me parles de burn-out, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Est-ce que tu peux me revenir sur cette étape-là de ta vie? Qu'est-ce que c'est qu'un burn-out et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le corps veut dire à travers ça?
C'est tout simplement quand c'est trop, quand on a trop tiré sur la corde. Et en fait, au niveau du travail, moi, à ce moment-là, j'avais déjà en tête d'ouvrir ma propre agence. Donc, je travaillais dans le domaine du tourisme pour une petite agence de voyage. Et mon but, c'était, dans le futur, d'ouvrir ma propre agence. Donc du coup, je me suis vraiment investie à fond dans cette boîte en me disant, voilà, je vais apprendre comment on fait la finance, comment on fait la relation client, comment on fait le marketing. Donc je me suis vraiment donnée à fond. C'était des horaires très très longues la semaine où la seule chose qui faisait que je rentrais chez moi, c'était qu'il fallait que je chope le dernier métro. Et le week-end aussi, c'était des événements et tout, c'était assez prenant. Et puis en fait, je suis arrivée à un moment où je sentais que c'était un petit peu difficile. Et j'avais des amis qui faisaient un tour du monde et qui allaient au Népal. Et moi, c'était un de mes rêves d'aller au Népal. Donc je me suis dit, bah ok, je vais essayer d'aller les rejoindre. Donc j'ai dit à mon boss, j'ai dit, ok, là j'ai besoin de vacances, j'aimerais partir au Népal. Et il m'a dit non. Et j'étais ok, je lui dis, mais là je sens que j'en ai vraiment besoin, je sens que j'ai besoin d'une pause aussi, le travail ça devient beaucoup et tout ça. Il m'a dit non, Et du coup, le lendemain, je lui ai dit que je quittais le job. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était une des meilleures décisions de ma vie, je pense. Parce qu'après ça, j'ai senti vraiment un poids sur mes épaules qui s'est enlevé. Et puis à partir de ce moment-là, ça m'a permis aussi de réfléchir au travail que je voulais faire par la suite. Avoir un travail qui a un peu plus de sens, avoir peut-être une vie un peu plus équilibrée entre la vie perso et la vie pro. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour te lancer et créer ton business. Et du coup, j'ai ouvert mon agence de voyage.
Ok, donc tu l'as fait finalement, tu as ouvert cette agence de voyage pour toi.
Je l'ai fait parce que ça me semblait être le bon moment de me lancer dans cette aventure. Donc j'y suis allée d'une manière que je ne recommanderais pas forcément aujourd'hui, dans le sens où quitter son boulot du jour au lendemain, se retrouver avec absolument rien et se dire on va lancer sa boîte, dans mon imaginaire en 3 mois ça allait fonctionner, ça se passe pas du tout comme ça, mais c'était une aventure et ça m'a permis de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et aujourd'hui je regrette rien.
Quand tu crées ton agence, tu es encore à Londres ou est-ce que tu rentres en France à ce moment-là?
Je l'ai créé quand j'étais à Londres et après, en fait, je suis revenue en France. Mais en fait, donc je vendais des voyages spécialisés. J'étais spécialisée dans le tourisme responsable et principalement dans les randonnées. Et en fait, mon but, c'est que je ne voulais pas vendre des destinations où je n'avais jamais été. Donc, j'ai commencé à voyager pour tester les itinéraires que je créais, pour les modifier par la suite avant de les vendre. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais, mais ça sert à quoi que je prenne un logement ou que je m'installe vraiment en France, sachant que j'y suis à peine une semaine par mois. Mon agence était en ligne, donc je me dis, continue comme ça, reste de plus en plus longtemps dans chaque pays. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé un peu une vie de nomade, à passer d'un pays à un autre pour développer ces itinéraires.
Okay, on va parler de cette étape-là de ta vie, mais je reviens quand même sur l'agence pour laquelle tu travaillais à Londres. Donc là, tu vendais des voyages, mais effectivement, tu n'avais pas expérimenté.
Exactement, ouais. J'étais responsable de tout ce qui était voyages internationaux. Et en fait, je vendais des destinations à l'autre bout du monde. Enfin, c'était un moment de ma vie où j'avais pas vraiment voyagé très très loin, à part les États-Unis pour les études. Et en fait, il y avait cette... Je me souviens qu'il y avait un collègue à moi qui était très doué pour mentir et il arrivait à parler aux clients en disant « Ah oui, vous allez voir, en Chine, ça se passe comme ça, et puis il y a ci, il y a ça. » Et quand il raccrochait, je lui disais « Ah ouais, je savais pas que t'avais été en Chine et tout. » Il me dit « Mais j'ai jamais été. » Et je lui dis « Mais comment tu fais pour donner des détails et vendre ça comme si t'y as été ?» Enfin, je trouvais ça un peu... C'était épatant et en même temps malhonnête dans le sens où je me dis « Si les gens... viennent chercher des conseils dans une agence de voyage, c'est pour avoir vraiment des conseils vrais d'une personne qui est allée, qui a expérimenté les choses. Et du coup, je ne me voyais pas, moi, dans mon agence par la suite, faire la même chose. Et je voulais vraiment pouvoir donner des conseils très précis sur les choses que j'avais vécues, sur un retour d'expérience, ce qu'on attend logiquement d'une agence de voyage, quoi.
Tu parlais de tourisme responsable, donc c'était déjà le cas dans cette agence à Londres ou pas du tout? Et qu'est-ce que c'est que le tourisme responsable? Est-ce que tu peux définir un petit peu ce concept?
Alors en tout cas, pour moi, le tourisme responsable, c'est un tourisme qui a le moins d'impact négatif sur à la fois l'environnement, sur les populations locales. Et en fait, donc c'était pas du tout, cette agence était, pour laquelle je travaillais n'était pas du tout spécialisée là-dedans. Eux, ils étaient spécialisés dans toutes les grosses randonnées un peu connues, comme la Grande Muraille de Chine, le Kilimanjaro, l'Everest Base Camp, donc des grosses randonnées. Et moi, en fait, au début, mon idée, en fait, c'était de faire un petit peu la même chose, de faire ces grosses randonnées très connues, parce que ça me faisait rêver. Et quand j'ai été au Népal, justement, je voulais faire l'Everest Base Camp, comme tout le monde fait. Sauf que c'était trop long, j'avais pas assez de temps pour faire cette randonnée-là, et c'était trop cher, j'avais pas non plus les finances pour faire ça. Et en parlant en fait avec l'agence, elle me dit mais Marie, enfin je te connais, en fait c'est pas ça dont t'as besoin. Ce qui t'irait mieux, c'est cet itinéraire là. Donc c'est un autre itinéraire à l'opposé, qui était très peu connu, mais qui était géré par une communauté. Donc ça veut dire que tout l'argent qui rentrait du tourisme était ensuite géré par la communauté pour ensuite être réinvesti de la meilleure des façons. Et je m'étais dit, c'est vrai que l'idée est sympa. Et, Et elle m'a dit, et puis là, les vues, enfin, on est au Népal, peu importe où tu vas, de toute façon, les vues sont incroyables. Et donc, du coup, j'ai accepté de faire ça. Et j'ai fait cette randonnée de 9 jours avec mes deux amis que j'ai rejoints. Et en fait, c'était juste incroyable parce qu'on a eu les deux premiers jours, le début d'une petite randonnée connue, donc il y avait encore beaucoup de monde, mais c'est surtout du tourisme local, des écoles principalement. Et après, en fait, il fallait qu'on appelle en avance les lodges pour être sûr qu'ils soient ouverts. Et du coup, ça te donne cette opportunité vraiment d'aller à la rencontre des gens, parce que tu fais pas partie, t'arrives pas avec un énorme troupeau de touristes, et t'as cette opportunité de t'asseoir le soir et de discuter avec les gens et d'échanger. Et en fait, cette expérience, pour moi, elle a été vraiment un déclic, parce que je me suis dit, mais c'est ce type d'expérience que je veux que mes clients aient. C'est vraiment avoir ces moments de qualité avec des gens sur place et pas juste suivre à la queue leu leu des touristes dans un endroit qui est surpeuplé, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et à partir du moment où donc, tu découvres cet itinéraire, tu te rends compte que l'humain finalement fait partie intégrante du voyage, avec cette envie de partage et de faire rencontrer à des voyageurs européens un peu ce que toi tu viens d'expérimenter. Mais comment est-ce qu'on fait quand on crée son agence pour faire connaître son produit touristique, ou en tout cas son voyage qu'on propose? Parce que il y a ce rêve, enfin je pense qu'aujourd'hui on est quand même dans ce monde où beaucoup de gens essaient de remettre un peu de sens et de cohérence dans leur vie et cherchent à créer la réalité qui leur corresponde et pas forcément rentrer dans une case dictée par une pression sociale ou familiale. Mais quand on veut se lancer en tant qu'indépendant et créer son métier, donc toi ça a été dans le tourisme, comment est-ce qu'on s'y prend?
Je pense que au début, en fait, c'est un peu l'erreur que j'ai faite, c'est que je pensais qu'en faisant de la pub en ligne, ça allait suffire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux, c'était quand je revenais en France et que je faisais des événements en face à face. Donc, j'organisais en fait des apéros voyageurs où du coup, je réunissais des gens. On se prenait un apéro ensemble et en fait on parlait voyage et on partageait nos expériences. Et en fait, ça, c'est ce qui a fonctionné le mieux. Et je me suis dit, en fait, il y a vraiment que le lien en direct avec les personnes qui marche mieux. Et après, c'est le bouche à oreille. À partir du moment où les gens te voient, te font confiance, ils en parlent autour d'eux et puis c'est comme ça que ça se développe.
Et en même temps, tu t'es lancé dans le nomadisme. Tu parlais d'un peu digital nomade, donc tu avais compris que tu pouvais bosser d'un peu partout. Donc parle-moi peut-être cette phase-là de ta vie, parce qu'il y a aussi ce rêve qui est peut-être alimenté par les réseaux sociaux. On voit des influenceurs qui se baladent dans des paysages incroyables, souvent avec leur ordinateur portable, souvent en couple aussi, et puis tu te dis, ils vivent leur meilleure vie, quoi. Moi aussi je veux faire ça. Donc j'ai l'impression que tu es allé un petit peu vers ce style de vie-là, donc j'aimerais bien que tu reviennes sur cette époque de nomadisme.
J'ai passé 8 ans en fait en mode nomade. Pendant 5 ans j'avais mon agence de voyage, jusqu'au Covid, où j'ai dû la fermer. Et par la suite, j'ai continué en mode nomade, mais là je faisais un peu des boulots en ligne, de marketing, tout ça. Mais cette expérience, alors pour moi, j'ai vraiment adoré, parce qu'en fait, le fait de voyager, enfin même de vivre dans un pays, ça te donne une expérience qui est complètement différente que quand tu viens en vacances pendant une semaine, où t'as plus une vision un peu superficielle du pays. Là, tu prends le temps de t'installer, de te créer une routine, du coup de revoir des personnes aussi régulièrement, donc tu crées du lien. Les gens du pays te voient un peu différemment, en fonction de comment tu te comportes aussi, évidemment. Mais tu peux créer du lien beaucoup plus facilement que quand tu viens juste pour une semaine et que tu essaies de faire un maximum de choses parce que c'est ta semaine de vacances, quoi. Donc moi, j'ai adoré ce côté-là où se créer une vie, en fait, dans chaque pays et aller à la rencontre des autres. C'était une expérience vraiment, vraiment incroyable. Je suis contente d'avoir pu vivre ça, oui.
C'est dans quel pays que tu as fait le choix de te poser pour bosser? C'était le Népal, là, ou quand tu disais donc vivre dans d'autres pays à l'étranger, c'était comment tu choisissais tes pays et quels étaient-ils?
Il y a eu beaucoup de pays, majoritairement, même surtout en fait des pays chauds, parce que je déteste le froid. Donc en fait, je suivais le soleil et j'ai passé beaucoup de temps en Amérique latine, parce que c'est vraiment un endroit du monde que j'adore. Et puis dès que parfois, on va dire que je revenais un peu quand même de temps en temps en Europe, au moins pour voir la famille, un peu aussi en Asie du Sud-Est, enfin, des pays. En fait, je décidais pas vraiment à l'avance. Je me disais, ah, tiens, c'est vrai que ce pays, il a l'air sympa. Hop, allez, on y va. Après, bah, je suis ici, maintenant, il faut que je parte. Où est-ce que je peux aller? Et puis après, en fonction de, ouais, en fonction de mes envies, en fonction de ce que j'entendais, des gens que j'avais envie de rencontrer, des expériences que j'avais envie de vivre, je suivais mes envies.
Tout en continuant à créer des itinéraires touristiques.
Oui, pour les 5 premières années, oui. À chaque fois, c'était un peu mélanger le travail et la vie perso, parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais dans un nouvel endroit, je me disais, ah, tiens, là, on pourrait faire un itinéraire. Ah, je vais essayer de tester cette rando. Tiens, il faudrait que je rencontre une agence sur place avec qui je pourrais travailler. Donc, c'était un petit peu mélangé. Mais après, moi, ça a été tout le temps ma passion. Donc, ça m'a pas forcément dérangé. Et puis par la suite, une fois que mon agence était fermée après le Covid, là, c'était peut-être un peu plus simple de séparer, on va dire, vie perso et vie pro, parce que j'avais mon boulot en ligne. Dès que c'était fini, je profitais un peu plus du pays, quoi.
Quand tu voyages comme ça avec ton boulot en ligne, est-ce que tu peux me parler de ce monde de digital nomade ou pas trop? C'est quelque chose que tu as expérimenté, tu les as rencontrés. Qu'est-ce que c'est qu'un digital nomade? Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette grande famille?
Ouais, les spécimens des digital nomades. Alors au début, en fait, quand j'ai commencé à voyager en tant que digital nomade, ce mot n'existait même pas. Et c'est par la suite où j'ai entendu qu'on en parlait. Je me suis dit, ah oui, en fait, bah, logiquement, c'est moi, puisque je voyage et que je travaille en ligne. J'ai eu du mal, en fait, à m'identifier au digital nomade, et encore plus vers la fin. Au début, oui, je me disais, bah oui, c'est vrai, on est plusieurs à travailler comme ça en ligne et à vivre dans différents pays. Donc, je trouvais ça intéressant, on rencontre des gens de plein de pays différents. Mais il y a vraiment deux phases. Il y a une phase où c'est vraiment des gens qui ont envie de... Bah oui, d'expérimenter la vie locale et de s'intégrer dans la vie locale. Et il y a aussi une autre phase où c'est vraiment des gens qui sont là parce qu'il fait beau, parce que la vie, elle est pas chère. Mais par contre, il faut qu'on ait absolument la même vie qu'on aurait chez nous. On va aller au Starbucks, et on va aller manger dans des chaînes. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, il y a vraiment ces deux faces. Et de plus en plus, vers la fin, quand le digital nomade a commencé à se développer, le digital nomadisme a commencé à se développer, là, je me suis plus du tout reconnue là-dedans. Parce que je sentais qu'il y avait un manque de respect, en fait, des personnes qui voyageaient et qui travaillaient en ligne, qui avaient de moins en moins cette envie vraiment de s'intégrer et de découvrir la culture du pays. Et du coup, j'ai commencé un peu, ouais, à m'en éloigner.
Ok, donc le Covid arrive et tu tournes la page de l'agence, c'est ça?
Oui, au début, je l'ai juste mis en pause en me disant, bon, ok, on peut pas voyager. Et puis, bon, comme tout le monde, je me suis dit, c'est une affaire d'un ou deux mois et puis ça va passer. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et en fait, une fois que les gens ont pu recontinuer à voyager, j'ai essayé de relancer l'agence. Et en fait, c'était complètement différent la façon dont les gens voyageaient. Tout le monde était hyper stressé, les gens annulaient au dernier moment. Moi, je passais beaucoup plus de temps à savoir quel formulaire fallait remplir pour entrer dans quel pays. Alors qu'à la base, moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment de chercher le petit logement sympa où ils vont pouvoir dormir, l'activité qu'ils vont faire, les gens qu'ils vont pouvoir aller rencontrer. Et du coup, j'ai un peu perdu ouais, c'était vraiment différent. Et je me suis dit, je préfère arrêter avant d'en être dégoûtée, parce que le voyage, c'est ma passion. Et du coup, j'ai décidé de fermer la boîte. Ce qui m'a aidée, c'est qu'à ce moment-là, j'étais déjà très intéressée par l'Ayurveda. Et que je me suis formée en Ayurveda, et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est peut-être le bon moment de changer de carrière, de mettre les voyages, en tout cas au niveau professionnel, de côté, les garder au niveau personnel, et de me rediriger vers autre chose.
Donc avant d'ouvrir le chapitre Ayurveda, tu disais, le voyage, c'est ma passion. Qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage? Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça t'a apporté?
Moi, le voyage, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une ouverture d'esprit où, en fait, c'est venu questionner toutes mes croyances, où je me suis rendu compte qu'on est éduqué d'une certaine façon, qu'on vit dans un certain milieu, et qu'en fait, quand on voyage, ben, tout le monde est différent et il n'y a pas ma vision c'est la meilleure ou ta vision c'est la meilleure, c'est juste des visions qui sont différentes. Et ça m'a permis vraiment ouais, de m'ouvrir au monde et de me dire c'est incroyable ces façons de penser. Et là, je me rappelle une fois où j'étais en Tanzanie et j'étais dans une tribu Maasai et je parlais avec le professeur du village et il me demandait combien de... Non, déjà, il me demandait où était mon mari, parce que je voyageais seule, donc je n'osais pas lui dire que je n'étais pas mariée. Et ensuite, il me dit, mais en France, combien de maris tu peux avoir? Et je lui dis, un seul. Et il me dit, un seul? Et je dis, oui. Il fait, même pas deux. Officiellement, non. Et il me dit, oui, c'est bizarre. Et en fait, la façon dont il m'a dit, c'est bizarre, c'est, pour lui, c'était quelque chose de différent, d'étrange, mais il n'y avait pas de jugement. Et en fait, le fait que lui puisse avoir plusieurs femmes était tout aussi bizarre que pour lui, je ne peux avoir que seulement un mari. Et en fait, je me suis dit, c'est génial parce qu'en fait, on a des visions complètement différentes. Ce qui pour lui est normal, pour moi, n'est pas la normalité et inversement. Et pour autant, qui dit que ma façon de vivre est la meilleure, sa façon de vivre est la meilleure, on est juste différents. Donc c'était vraiment une grosse ouverture d'esprit de découvrir qu'on a tous des façons de vivre différentes. Et du coup, c'est les rencontres que j'ai faites. Pour moi, le voyage, c'est... Évidemment, c'est des paysages magnifiques que tu peux voir. Mais les souvenirs que j'ai aujourd'hui sont liés aux personnes que j'ai rencontrées.
Et comme tu le disais très justement, le voyage, c'est un pas de côté qui te permet de découvrir différentes réalités, différentes croyances et se rendre compte que finalement, la vérité est multiple. Et elle est feuilletée. C'est bien de pouvoir faire vraiment ce pas et de se rendre compte qu'on n'a jamais complètement raison, jamais complètement tort, mais qu'on est vraiment tous complémentaires et surtout interdépendants les uns des autres.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu disais aussi, tu voyageais seul en Tanzanie. Donc, je veux bien que tu me parles aussi de ça, parce que je pense qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes qui ont envie de partir seuls. Mais qui passent peut-être par une agence pour se sentir sécurisés ou qui ont peur de partir seuls. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces gens-là? Est-ce que le monde est aussi effrayant qu'on peut se l'imaginer?
Alors, pour répondre à ta question, j'ai jamais eu l'endroit où j'ai le plus peur à chaque fois que je partais en voyage, c'était quand je revenais et que je passais par Paris. C'était vraiment l'endroit où je me disais « Ouh là, je me sens en insécurité, là ça va pas du tout ». Alors qu'à l'autre bout du monde, alors... Évidemment, il faut faire preuve de bon sens et il y a des choses que tu fais attention à la façon dont tu te comportes, la façon dont tu t'habilles, tu fais attention aux gens qui sont autour de toi, des choses qui sont totalement normales, mais le monde n'est pas aussi coupe-gorge qu'on veut nous le faire croire et surtout j'essaie un maximum d'inciter les femmes à voyager parce que je sais que c'est encore plus difficile pour une femme, il y a encore plus de croyances limitantes pour les femmes. Mais non, on peut voyager solo et pour moi c'est même la meilleure façon de voyager parce qu'il y a que comme ça qu'on peut vraiment s'ouvrir aux autres. En général, quand on part à plusieurs, on a tendance à rester en groupe, c'est le confort. Et en fait, quand on est seul, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller vers les autres. Et en même temps, quand on voyage seul, les autres viennent plus facilement à nous aussi. Donc à chaque fois que j'ai voyagé seul, c'est là où j'ai eu les meilleures expériences et les plus belles rencontres. Donc il faut voyager seul. Après, ça peut faire peur au début quand on n'a jamais voyagé seul. On peut tout simplement, on n'est pas obligé de partir pour la première fois à l'autre bout du monde. On peut partir à l'autre bout de la France, on peut partir en Europe. Et on peut aussi, pour un premier voyage, partir seul, mais accompagné d'une agence où on sera après dans un groupe. Donc on ne connaît pas forcément les gens avec qui on va partir, c'est déjà un petit peu l'aventure, mais ça fait un peu moins peur au début, oui.
Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager seul?
Beaucoup de débrouilles, il faut se débrouiller seul quand on a des situations qui nous arrivent. En fait, on n'a pas le choix, on est là, et on se dit, là, je peux compter que sur moi-même. Et du coup, on apprend à se débrouiller, on apprend à gérer À gérer son temps, à gérer son planning, à gérer ses émotions, à faire confiance à son intuition. Ça donne confiance en soi de voyager seul, parce qu'on se dit, ah bah oui, en fait, ouais, c'est possible de faire des choses, c'est possible de s'en sortir, même à l'autre bout du monde, dans un pays où je ne parle pas la langue. Donc, c'est une très bonne expérience.
Ta maman est passée avant, elle est partie, donc j'aurais posé la question de comment est-ce que elle vit le fait que sa fille voyage toute seule. Donc comment tes parents vivaient ça?
Ils ont eu beaucoup de mal, on va pas se mentir, au début c'était dur. Comme je pense chaque parent qui voit son enfant partir seul à l'autre bout du monde. Après, ils ont aussi voyagé seuls quand ils étaient très jeunes, donc ils savent ce que c'est. Et je pense que c'était même plus compliqué à leur époque qu'à mon époque. Mais pendant plusieurs années, il y a toujours eu ce stress de me voir partir seule. Après, je fais en sorte de les rassurer autant que je peux. Et je pense qu'au fur et à mesure, ils ont pris confiance en moi aussi, en sachant que je sais me débrouiller, même dans des situations un peu moins drôles.
Marie, on va parler de ce chapitre Ayurveda Yoga. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres en voyage? Et comment est-ce que tu fais rentrer l'Ayurveda et le yoga dans ta vie?
Alors, au début, j'ai commencé avec l'Ayurveda parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que je ne trouvais pas de solution dans la médecine moderne. Et du coup, j'ai commencé à me tourner vers les médecines anciennes. Et c'est là, parmi tant de recherches, que je suis tombée sur l'Ayurveda. Et plus je lisais sur cette médecine, plus je me disais, mais en fait, c'est tellement logique et tellement révolutionnaire en même temps. Et j'ai décidé de l'appliquer déjà à ce moment-là. Je voulais en faire mon métier tellement je trouvais ça incroyable comme médecine. Et après, je me suis dit, bon, calme-toi, t'as déjà une agence de voyage, continue là-dedans. Donc, je l'ai appliqué, on va dire, au niveau personnel. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour ma santé. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il faut que je puisse me former professionnellement pour pouvoir partager, en fait, cette médecine avec d'autres personnes, parce que ça a été d'une grande aide pour moi. Et je pense que ça peut être d'une grande aide pour beaucoup de personnes, oui.
Tu peux me parler de l'Ayurveda, ce que c'est?
Donc c'est une médecine qui vient d'Inde, qui date d'il y a plus de 5000 ans. Et en fait, Ayurveda, ça veut dire la science de la vie. Et c'est une médecine qui va se baser plus sur... on va essayer de regarder la source, en fait, du problème, plutôt que juste de cacher les symptômes. Donc, un exemple tout bête, tu vas avoir des maux de tête. Au lieu de te dire, bah voilà, tu prends ça pour ne plus avoir les maux de tête, c'est ok, mais pourquoi tu as ces maux de tête? Est-ce que tu as assez bu? Est-ce que tu as assez dormi? Enfin, on va vraiment chercher, creuser un maximum pour trouver la source du problème. Donc cette approche déjà m'a beaucoup plu. Et du coup, c'est plus une médecine préventive. En fait, on ne va pas attendre de tomber malade pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est vraiment comment, dans ta vie de tous les jours, faire en sorte qu'au niveau de ta nutrition, au niveau de ton hygiène de vie, tu sois le plus en forme possible pour idéalement ne pas tomber malade. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu dans l'Ayurveda, c'est que c'est une approche qui est très individuelle, dans le sens où il n'y a pas un régime qui va aller pour tout le monde. C'est en fonction de toi, de qui tu es, de ton âge, de la saison, de plein de choses, de ton environnement. Tu vas avoir une nutrition qui va être plus adaptée, une hygiène de vie qui va être plus adaptée. Donc en fait, c'est vraiment différent pour chaque personne. Et en plus, ça prend en compte autant la santé physique que la santé mentale, et ça comprend ça fait le lien en fait entre les deux. Ça divise pas comme dans la médecine moderne où on traite le mental et on traite le corps différemment, enfin en deux phases. Là, c'est vraiment un tout, un ensemble, et les deux sont liés. Et c'est cette approche qui m'a beaucoup plu. Oui.
Le côté holistique, on considère le corps, l'âme et l'esprit.
Oui, exactement. Et puis, c'est des médecines naturelles. Donc, on va utiliser la nutrition, on va utiliser l'hygiène de vie, les plantes, les massages pour apporter un meilleur bien-être, oui, pour le yoga.
Marie, merci. Merci beaucoup à toi.
Merci, Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.